Passe-moi la culture. Passe-moi la culture. Jusqu'à 13h.
L'éditrice et libraire Pascal S. a choisi de transmettre le témoin de l'émission à Jean-Luc Dachiano, auteur et fondateur des éditions L'Œil d'or, le monde merveilleux du livre dans Passe-moi la culture cette semaine, émission réalisée avec le soutien de la FSRC, la Fondation Suisse pour la radio et la culture.
Passe-moi la culture.
Jean-Luc Dachiano, bonjour.
Bonjour.
Des origines lyonnaises, une enfance nantaise, des études, un doctorat en littérature et psychanalyse et des fêtes parisiennes. C'est à Paris que vous avez créé en 1999 les éditions L'Œil d'or, une maison que vous avez emmenée avec vous à Neuchâtel. On peut faire vivre des éditions en dehors de cette grande capitale culturelle qu'est Paris ?
Alors oui, tout à fait. Déjà, il y a quelques grands éditeurs qui sont absolument non parisiens en France. Il y a aussi une tradition historique de l'édition en Suisse. Donc on peut tout à fait exister en dehors de Paris. Et je dirais même qu'on peut exister avec beaucoup plus de sérénité en dehors de Paris.
Il y a moins de pression ?
C'est plutôt qu'en France. Bon, déjà, il y a un climat politique en France qui est compliqué en ce moment. On va pas s'étendre plus que ça. Mais en France, l'édition se compose principalement de très grands groupes, que je qualifierais de deux manières. Il y a les grands groupes où l'édition est quand même le cœur de métier, comme Gallimard, Actes Sud, et les grands groupes où l'édition est une danseuse au milieu d'un conglomérat industriel, et une danseuse avec des buts politiques, comme Bolloré, ça c'est autre chose. Mais ces grands groupes se font une guerre économique sans merci, et considèrent que les éditeurs indépendants sont de trop. Alors on est une centaine d'éditeurs indépendants, on se connaît tous, on tente vaguement de s'entraider, mais voilà, on est quand même tout petit. En Suisse, il n'y a pas de groupe, donc c'est pas du tout la même ambiance.
Le goût de la littérature, l'amour des livres, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Vous avez grandi dans une famille où on valorisait le livre, les arts en général ?
Curieusement, absolument pas. Mon père vient d'une famille très très trash, et c'est un autodidacte qui a fini par faire une assez grosse carrière dans la fonction publique, mais qui jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite ne lisait aucun livre. Ma mère est une immigrée italienne avec des sérieux troubles du langage, donc elle n'est pas analphabète, mais elle est illettrée, c'est-à-dire qu'elle est dans l'incapacité de lire un texte. Bizarrement, dans cette famille où il n'y avait aucun livre, j'ai tout de suite aimé lire. Mais vraiment tout de suite, c'est un des souvenirs les plus marquants de mon enfance. C'est moi expliquant à mon institutrice en maternelle que je voulais lire et apprendre à lire. Alors il y avait le livre de la jungle avec des illustrations et je voulais absolument savoir de quoi ça parlait. Et puis du coup j'avais appris l'alphabet, mais en apprenant l'alphabet je ne savais toujours pas lire. Et j'étais allé la gronder en disant qu'elle m'avait menti. C'est un truc qui vient de nulle part, mais qui m'a toujours accompagné. Et qui a été très utile à mes parents, puisque du coup, c'était ma demande prioritaire. Gamin, j'étais inscrit à la bibliothèque qui se trouvait rue Garde-Dieu. Et on m'y déposait les mercredis matins et les samedis matins. Et j'y passais ma journée. Je m'entendais très bien avec la bibliothécaire, qui avait un pied beau. Et très vite, j'ai éclusé tous les rayonnages de la partie jeunesse. Et donc, j'avais une dérogation pour aller à l'étage, accompagné par une bibliothécaire. Et entre le rez-de-chaussée et l'étage pour adultes, il y avait le rayon science-fiction et fantastique. Et je me suis un peu arrêté là.
Il y a un souvenir d'un livre en particulier découvert dans cette bibliothèque qui a procuré, je ne sais pas, une émotion particulière.
Il y avait une collection. En vous répondant, je réalise que je réfléchissais déjà en collection. Il y avait la collection Mille Soleils, qui était des romans un peu d'aventure, plutôt bien écrits, qui me fascinaient. Et dans le lot, il y avait un livre de Yann Cameron, qui était une revisitation de Moby Dick, mais à l'époque, je ne le savais pas, et qui était l'histoire d'un cachalot raconté du point de vue du cachalot. Et ça me fascinait. Ça, c'est un grand souvenir marquant de littérature à 8-9 ans, je pense, quelque chose comme ça.
Donc le fait après de faire un doctorat en littérature, les racines, elles ont été plantées à ce moment-là.
Ça m'a permis de jamais me poser de questions sur ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu écrire, lire, et l'extension naturelle des deux, c'était aussi de publier. Donc il y avait quelque chose comme ça de très évident. L'idée aussi de publier ou d'écrire d'ailleurs ce que je ne trouvais pas. Des textes que j'arrivais pas à trouver, les choses qui manquaient, etc. De publier des choses que j'aurais aimé avoir rencontrées en tant que lecteur.
Alors vous allez nous parler de votre travail, notamment d'éditeur, dans quelques instants. Mais d'abord, on va écouter un petit peu de musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme premier morceau ?
Alors le premier morceau, c'est une chanson de PJ Harvey qui parle d'eau et qui me renvoie à mon adolescence où, un peu bizarrement, j'étais un adolescent assez calme et en même temps très nocturne. C'est pas un paradoxe, on peut être les deux. Et tous mes copains étaient des post-punk ou des hard-rockeux et écoutaient énormément de musique et me traînaient dans beaucoup de concerts. Alors que moi, j'en écoutais pas tant que ça, mais petit à petit, je me suis fait une espèce de culture musicale rock, post-punk, plein de choses comme ça. Et très vite, j'avais noté que quand même, les voix de femmes dans le rock, c'était impressionnant. I lost my heart.
Passe-moi la culture avec Joël.
Jean-Luc Dachiano est notre invité cette semaine. Auteur, Souviens-toi des monstres, Ta main noire, L'enfant chaman et autres bestioles à plumes, à poils et à peau, par exemple. Également éditeur avec les éditions L'œil d'or, une maison d'édition qui publie tant de la littérature que des ouvrages de musicologie, d'architecture. Comment est-ce que vous choisissez ce que vous allez éditer? Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est forcément les textes que vous auriez aimé trouver.
Quand il n'y a pas un directeur de collection ou une directrice de collection derrière, ce sont des coups de cœur. Pour la géographie urbaine et la musicologie et les arts de la scène, j'ai pour les arts de la scène Myriam Bledet, pour la géographie urbaine Joseph-Frédéric de Roubaix et pour la musicologie Aurélien Poitevin, qui sont des universitaires qui m'apportent des propositions. En général, ils sont très bons et j'ai rien à redire. Alors des propositions qui parfois sont financées parce que certains textes sont des choses un peu complexes. En géographie urbaine, c'est quand même du texte universitaire, du collectif, mais je suis assez heureux parce que comme on a un comité éditorial, on a eu l'imprimature des universités, donc pour un universitaire publié à l'œil d'or, ça compte dans ses publications, ce qui est un peu une petite victoire. Indépendamment de ces trois domaines, pour le reste, c'est du coup de cœur. Alors après, c'est lié à des parcours personnels. J'adore l'architecture, même si les architectes ont du mal à se remettre en cause en tant que fer de lance des promoteurs immobiliers qui sont eux des gens pas du tout aimables et que l'urbanisme n'est pas toujours bienveillant. Mais j'adore l'architecture. Enfin, le bâti, c'est beau. Et même quand c'est des ruines, c'est toujours beau. J'aime la danse. Aimant ces endroits-là, bah, je connais du monde dans ces milieux-là. Connaissant du monde dans ces milieux-là, je suis amené à faire des rencontres où on finit par me proposer des textes, parfois aboutis, parfois en cours. Et du coup, le paradoxe, c'est que je reçois 3 propositions de manuscrits par jour, mais de choses que j'ai reçues de l'extérieur dans mon catalogue, il n'y en a peut-être que 2 ou 3. Autrement, c'est quasiment toujours des projets qui ont été initiés dans le cadre de rencontres liées à mon parcours de vie.
Entre le moment où il y a cette rencontre et puis le moment où ça va être un livre qu'on va trouver chez notre libraire, il se passe quoi? C'est quoi les étapes? C'est quoi le travail?
Alors, déjà, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est que la temporalité est complètement indécidée. C'est-à-dire que certains projets, on me dit « tiens, on pourrait faire ça ». Et puis 2 mois après, j'ai un manuscrit et 2 mois après, le livre sort. Et dans d'autres cas, la conversation peut durer plusieurs années. Je trouve ça génial et parfois un peu anxiogène. Au moment où je dis à quelqu'un « mais en fait, moi je suis partant », il faut que la personne fasse son texte, le mène à terme. Donc moi, je peux aider à ce qu'un texte soit bien, mais je ne peux pas aider l'auteur à le terminer. Il faut d'abord qu'il termine son premier jet, puis après on peut discuter. Mais il y a la validation du projet, il y a le premier jet de l'auteur. Ensuite, il peut y avoir un travail éditorial qui consiste à dire « ça tu reprends, ça c'est bien, ça ne va pas ». Enfin, il y a plein de possibilités. J'ai eu un texte il n'y a pas longtemps qui est très bien, qui est très drôle, qui est assez trash, un côté texte avéré méchant, avec un personnage qui tue plein de gens, et en fait ça commençait par « il tue 4 femmes ». Et je dis à l'auteur « en fait, moi je publie pas ça, tu commences par 4 féminicides, c'est pas acceptable ». Il me dit « ah mais t'as raison, je m'étais pas posé la question ». Je dis « bah pose-toi la question de pourquoi tu t'es pas posé la question, reprends ton texte ». Il m'a dit « mais je suis tellement heureux que tu m'aies fait la remarque, que bien sûr que je vais reprendre mon texte ». Donc voilà, ça c'est un exemple. Et puis des fois ça peut être « c'est trop long », ou des fois « c'est trop court », enfin il y a des choses. Une fois que le texte, on arrive à un état définitif du texte, je le transmets à Gilles Minot, qui est un correcteur de très très haut niveau, un ancien correcteur du monde, un type incroyable, il reprend tout. Donc un correcteur, c'est pas que la grammaire et l'orthographe, c'est aussi la typographie, c'est aussi vérifier que les dates sont bonnes, que les noms des personnages sont bien écrits pareil partout, que s'il y a une table des matières, elle soit juste. Enfin, il y a plein de lièvres cachés ou de possibilités de choses trappes dans les livres qu'on ne soupçonne pas. Gilles doit les trouver. Une fois que c'est fait, ben on passe à la maquette, que je valide. Donc moi, à chaque fois, j'ai un travail de validation, en fait. Puis il y a la couverture, qui est mon grand plaisir, puisque globalement, pour les couvertures, je ne travaille qu'avec des artistes. J'ai rien contre les graphistes qui font un travail via Photoshop, mais j'ai un goût pour la gravure, la linogravure, la gravure sur pierre, la gravure sur bois, la peinture, etc. Donc j'adore partir à la recherche d'artistes qui vont accepter de me vendre l'utilisation d'une œuvre pour une couverture et d'accepter qu'il y ait de la titraille dessus. Une fois que ça c'est fait, il y a l'imprimeur, donc il y a le choix du papier de la couverture qui donne aussi une matérialité importante. Et puis après, ça part chez l'imprimeur, et puis ça arrive chez le diffuseur-distributeur, puis dans les librairies.
J'ai l'impression qu'il y a aussi, vous le dites avec la couverture, mais qu'il y a une attention particulière à l'objet livre. Il faut que ça soit quelque chose de beau.
Alors, je crois absolument en l'obligation d'avoir un objet qu'on puisse fétichiser. Je fais partie de la génération qui a grandi avec des vinyles. Je trouvais ça très beau. Et puis, on nous a proposé les CD en nous disant que ça prenait moins de place et que c'était indestructible. Donc, on est tous passés aux CD. Il s'est trouvé que les CD, c'était des boîtes en plastique moche qui se cassaient et qu'en fait, ils se rayaient et que ça n'était pas du tout indestructible. Et puis, c'était moche. Donc, du coup, comme on avait des CD moches, quand on nous a proposé le MP3 avec un son dégueulasse, on ne s'est pas posé la question de la perte de l'objet parce qu'on avait un objet moche. Et ça, pour moi, ça a été une leçon. C'est-à-dire que si on était resté au vinyle, on ne serait pas passé au MP3. On aurait toujours du son de qualité. C'est parce qu'on a eu un objet intermédiaire problématique qu'on est passé au MP3. Donc, pour le livre, il faut rester sur un objet qualitatif.
Justement, on va rester dans le domaine musical. C'est toujours vous qui choisissez la musique. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
À la fois, c'est un choix d'amour, d'adolescence et puis d'adulte. Et puis, c'est un choix que je trouve politique par rapport à ce qui se passe en France en ce moment. C'est Carte de séjour. Le chanteur, c'est Rachid Tahar. Et c'est leur premier titre qu'ils avaient fait connaître. C'était une reprise de Douce France, qui avait fait scandale en France à l'époque et qui avait été mis en avant par Jacques Lang. Donc la reprise de Douce France de Charles Trenet, grand chanteur français, mais aussi grand collaborateur, et est repris avec des sons et des rythmes nord-africains. Et toute l'extrême droite pensait que c'était ironique, alors que Rachida disait « Mais non, mais on aime la France, on est français. » Nonobstant les enjeux politiques, cette chanson est magnifique, on ne peut que danser dessus.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Passe-moi la culture. Rencontre avec les acteurs culturels de la région.
C'est la troisième et dernière partie de Passe-moi la culture. C'est le moment où on va découvrir l'identité d'un ou d'une prochaine invitée. Jean-Luc Dachiano, avant de nous révéler sur qui s'est porté votre choix, Pascal S. qui vous a désigné pour répondre à nos questions. On a une pour vous.
C'est vraiment une question un peu bateau, mais qui est très, très, très compliquée. Est-ce qu'il a un livre fétiche ?
Oh, j'ai quelques livres fétiches. J'ai le Moby Dick de Melville. Je reste sur la traduction de Giono parce que c'est comme ça que je l'ai lu. Mon nom est Ishmael, mettons, qui est quand même un très grand livre. J'ai Fiction de Borges, qui est quand même assez extraordinaire. Recueil de nouvelles, et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les nouvelles. Le cycle de Terre et Mer d'Ursula Le Guin, que j'ai lu très jeune, un peu désarçonné, parce que je m'attendais à des combats, et en fait c'était pas du tout ça, et ça m'a amené à l'idée qu'il puisse y avoir une littérature fantastique avec des dragons qui soit pas une littérature masculine et viriliste. Ces trois-là déjà, ça me paraît pas mal.
Et votre prochain ?
Mon prochain roman, alors c'est un peu particulier, donc j'ai écrit Souviens-toi des monstres, qui est un grand roman de 600 pages. Depuis longtemps, on me demande des préquels ou des suites à Souviens-toi des monstres sur un certain nombre de personnages. Et dans Souviens-toi des monstres, qui est un roman qui se passe dans une Sicile imaginaire, à un moment donné, du fin fond d'un volcan apparaît une Inuit, qui va devenir un personnage pas principal, mais important. Souvent on dit, mais comment une Inuit apparaît dans un volcan ? Et donc j'ai écrit l'histoire de l'Inuit qui apparaît dans le volcan, et je me suis fait une petite règle oulipienne, c'est-à-dire j'ai dit 12 chapitres, 100 pages. Et donc je l'ai écrit cet été. Et je l'ai transmis à mon éditeur qui m'a dit « Fais-moi d'autres blagues comme ça, en tout cas c'est bon, il sort en 2027. »
Et ça s'appellera ?
Pour l'instant, en termes contractuels, il apparaît sous le nom du Silence du roi requin.
Passe-moi la culture.
Là, il est temps, Jean-Luc Dachiano, de transmettre le témoin. Qu'est-ce que vous invitez à nous rejoindre ?
Alors j'invite Marie-Morgane Haddad, Marimo, qui est une autrice de bande dessinée neuchâteloise, dont j'aime beaucoup le travail, qui fait partie de cette jeune génération de la bande dessinée en France, en Suisse, en Belgique, qui bouge les lignes. Et je suis assez admiratif de ça, en fait. La BD était quand même très masculine, très close. Je veux dire, ok, Claire Bretéché, mais bon, voilà, c'était un peu... Enfin, à un moment donné, il y a des figures, et puis ça permet de pas aller plus loin. Et puis tout d'un coup, en 10 ans, il y a eu une émergence en France, en Belgique et en Suisse, d'une génération de femmes qui... Alors, si je dis femmes fortes, ça fait un peu cliché, puis les autres n'étaient pas des femmes faibles, donc c'est pas mon propos, mais de femmes qui ont réussi, je ne sais pas comment, et c'est un peu ça ma question, à apparaître, à publier et à transformer la narration, à transformer la bande dessinée et à ouvrir le monde.
Qu'est-ce qui vous touche dans son travail, outre le fait de faire partie de cette génération de femmes qui font bouger les choses?
C'est un très beau trait au noir et blanc, et Pied à terre, donc le livre sur l'aide aux migrants, aux exilés en Méditerranée, elle arrive à aborder quelque chose qui est juste absolument tragique, traumatisant et éprouvant, sans faire ni détour, mais en même temps en restant étonnamment lisible. C'est un point d'équilibre entre le propos, l'empathie et en même temps la franchise, que je trouve intéressant.
Une question que vous avez envie de lui poser et qu'on se charge de lui transmettre?
Cette fameuse question de comment, alors je ne sais pas si elle peut parler pour une génération, mais comment est-ce que vous avez réussi à franchir cette espèce de barrière implicite qui pesait sur la bande dessinée et sur les arts en général, mais sur la BD, je le voyais bien, et à faire exploser cette chose en même pas 10 ans? Est-ce qu'elle a une idée? Est-ce qu'elle peut le théoriser? Ou est-ce que ça a juste été une pratique qui a été autoréalisatrice? Pour moi, je suis très admiratif, mais je n'ai pas la moindre idée de comment ils ont pu faire.
Et on lui posera la question dès qu'elle nous rejoindra ici. Jean-Luc Dasciano, merci beaucoup. Passons à la culture, revient dans une semaine, toujours avec le soutien de la FSRC, la Fondation Suisse pour la Radio et la Culture. Merci.
Merci beaucoup.
Passe-moi la culture, le samedi, sur RTN et en replay sur rtn.ch.